premier colloque du syndicat français des arts thérapeutes. Corps présent, corps absent en art thérapie. Vendredi 24 juin 2022. Questions-réponses avec les arts thérapeutes Emmanuel Césari et Jeanne Vion.
On va passer du coup à la discussion avec Emmanuel et Jeanne. Vous nous avez toutes les deux présenté des situations cliniques. Pour l'une, qu'avec sa voix et la vidéo, son corps. Pour l'autre, avec le diaporama et du coup des images de production des patients. Ce que je propose, c'est de poser la question de Romane en premier. Lors de séances en ligne, comment cela se passe au niveau des médias utilisés si la personne n'a pas de médias artistiques chez lui ou très peu? Donc, comment gérer l'accès au matériel à distance?
Jeanne Vion.
Alors, pour ma part, c'est arrivé régulièrement. Il est possible de faire un dessin avec n'importe quelle feuille, bout de papier et stylo. Il y a cette possibilité de rentrer dans la création, même sans avoir beaucoup de matériel. Il y avait le partage d'écran avec le tableau blanc que j'ai pas mal utilisé avec les jeunes. Alors, moi, je n'ai travaillé qu'avec des personnes que je connaissais déjà en visio. Et encore maintenant, quand je travaille en visio, c'est qu'avec des personnes que je connais déjà. Bon, donc je connais aussi un petit peu leurs affinités et ce qui est possible de faire. Et il reste le jeu. Je ne sais pas, Emmanuel, vous parliez aussi de jeu. Rien que la relation jouée avec un écran est possible. Je me cache. Et alors ça, les jeunes, ils sont très friands de ça. Et c'est le stylo qui me parle ou ce genre de choses. Voilà. Il y a eu beaucoup de mise en scène aussi.
Emmanuel Césari.
Alors, pour ma part, je prépare toujours d'une séance à l'autre la personne à essayer de rassembler tout ce qu'elle a chez elle. Mais les gens ont toujours des tas de trucs. Hein. Ça peut aller du bout de sopalin à... Mais les bouts de carton, bon, alors j'ai vu énormément de les boîtes de Amazon, là, qui se transforment en support. Et il y a eu une fois aussi assez intéressante, c'était avec Laïla. La personne qui a fait l'ordinateur, elle a eu la COVID pour la deuxième fois. Elle était en France et du coup, elle a été confinée dans un hôtel. Vous savez qu'il y a eu un moment, les confinements, on pouvait aller dans une chambre d'hôtel payée par la Sécurité sociale. Mais alors, quand vous arrivez dans ces chambres d'hôtel, effectivement, il n'y avait plus rien. Il n'y avait que son ordinateur. Eh bien, écoutez, on a pris Paint parce que Paint, c'est gratuit. Et là, il est apparu des choses très, très étonnantes parce que quand je lui ai demandé de se dessiner elle, eh bien, dans la séance, elle a dessiné. Donc, elle était très maladroite, mais c'est normal, c'était la première fois. Donc, elle a dessiné une petite fille. Que voyez-vous? Qui c'est? Les questions habituelles. Et puis, elle a bien vu que c'était la petite fille. Donc, la fois d'après, on a voulu dessiner elle. Et en fait, non, pas du tout. Elle, c'était devenu son père qui avait eu la COVID et qui était mort de la COVID. Et puis, troisième séance, elle est enfin arrivée à se dessiner, elle. Mais vous voyez, parfois, c'est très bien de ne pas avoir de matériel aussi parce qu'on ouvre vers tout à fait autre chose. Là, dans cette chambre d'hôtel nue, avec absolument rien, elle s'est retrouvée avec elle. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, elle ne parlait jamais d'elle. Et ça nous a permis de beaucoup, beaucoup avancer.
Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais me permettre de lire une question qui a été posée plutôt pendant la présentation de Jeanne. En quoi la relation avec l'institution permet-elle la stabilité du lien entre l'art thérapeute et le jeune? Son rôle est sans doute déterminant.
Le rôle est déterminant. Déjà, c'est l'institution qui a initié les ateliers. C'est l'institution qui paye les ateliers. Une question d'organisation. Le jeune ne peut pas venir par lui-même à l'atelier. Il faut que ses éducateurs, que les personnes référentes l'amènent et viennent le chercher à l'atelier. Donc, s'il n'y a personne de l'institution disponible, par exemple, comme c'était le cas lors des grèves ou pendant les moments où il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont eu le Covid, les ateliers étaient suspendus. Donc, il y a vraiment directement une implication. Et au-delà de ça, l'implication de l'éducateur référent. Je vois bien la différence, parce que j'ai accompagné plusieurs jeunes dans cette structure. Il y a une demande, on va dire, au niveau de l'institution d'une prise en charge en art-thérapie. Mais si l'éducateur référent n'est pas investi, ne croit pas en l'art-thérapie, par exemple, eh bien, ça devient très difficile. C'est-à-dire que le jeune a aussi beaucoup de mal d'investir. Mais c'est son adulte référent, c'est sa figure d'attachement. Donc, c'est les mêmes problématiques que quand on accompagne des enfants qui sont accompagnés par leurs parents.
Question pour Emmanuel. Lorsque la personne est plus anxieuse à la fin de la séance, comment on accompagne la séparation, la fin de la visio, pour s'assurer de son état? Une fois l'écran devenu noir, un rappel, téléphone ou visio, personnalisé, se fait-il dans ce cas? Je pense que Jeanne, vous pourrez aussi peut-être avoir un avis sur cette question-là.
Alors, dans mon processus, il y a donc les questionnaires, mais il y a aussi un questionnaire de faire créatif. J'ai 4 questions, c'est-à-dire comment avez-vous procédé, avec quel matériel, qu'avez-vous senti tout au long de la séance et que pensez-vous de ce que vous avez fait. Entre 2 séances, les personnes doivent répondre à ces questions. Et donc, il y a un échange de mails entre les séances. Quand les personnes ont un taux d'anxiété plus élevé, c'est pas de l'angoisse, c'est pas de la peur, c'est l'anxiété d'avoir levé un lièvre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire découvert quelque chose d'inattendu, qui ne stresse pas forcément la personne. Elle est plus anxieuse parce qu'elle a peur de l'inconnu. En même temps, tout le monde est à la recherche de c'est quoi. Et donc, la fois d'après, on travaille sur ce qui a été révélé au cours de cette séance. Et en général, ça se passe bien. Hein. Les gens, ils ne me lâchent pas en cours de route.
Il me semble que, mais Emmanuel en a parlé tout à l'heure avec les personnes avec Covid long, donner une continuité à l'atelier en demandant la réalisation d'une œuvre dans le temps entre les ateliers. Le lien perdure, il y a une possibilité d'expression et en même temps, cette anxiété ou ces peurs même qui peuvent émerger, elles ne sont pas dans le vide et nous les reprendrons ensemble. Et comme j'accompagne beaucoup de jeunes, très souvent, je demandais aux parents d'être contenants avec leurs enfants et de bien vérifier qu'ils se reconnectent la prochaine fois. Voilà. Parce que chez les jeunes, ça va très vite. Hein. « Je ne vais plus jamais la voir !» Le fait de tenir, de se reconnecter, eh bien, voilà, c'est la possibilité de passer ce cap.
Alors, je vais lire la suivante. Donc, la question de l'identité de la voix dans le travail en distanciel et comment la voix vient faire le lien avec un corps absent. La force du lien de la voix comme l'un des premiers vecteurs de rencontre avec l'autre. Donc, justement, Nathalie partage un peu cette place aussi de la voix dans cette relation en distanciel. Je ne sais pas si vous vouliez développer un tout petit peu sur ce point.
La question de la voix, je l'ai beaucoup utilisée puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, pendant de longues semaines auprès de jeunes, en fait, ils ne m'adressaient pas du tout la parole et je ne les voyais pas à l'écran. Et pourtant, ils se connectaient chaque semaine à l'heure de notre rendez-vous. Et quand je leur disais la semaine prochaine, ils me disaient oui et ils se déconnectaient. C'était ma voix. Je créais une enveloppe sonore et c'est bien avec ma voix et des histoires que je pouvais leur lire, que je pouvais leur inventer, la création que je faisais pour eux en direct. Donc, il y avait un côté du faire, mais surtout de la voix. Et j'essayais de préparer pour ces jeunes une histoire à leur raconter. Donc, soit un conte, hein, soit je l'écrivais pour eux en direct. Et ce n'était pas une première rencontre dans mon cas. Je pense qu'Emmanuel, du coup, a d'autres...
Non, c'est bon parce qu'on en a parlé, Manuel en a parlé, j'étais qu'une voix.
Et vous parliez aussi de la musique, Emmanuel, qui est peut-être plus
oui,
compliquée.
Oui, mais la musique, je trouve que c'est terrible de massacrer la musique. Et la visioconsultation massacre la musique. Mais la voix, elle se module autrement, elle n'est pas forcément massacrée.
Alors, c'est peut-être la musique préenregistrée dont vous parlez, parce que c'est possible d'utiliser la voix chantée, l'instrument live. Là, tout à l'heure, c'était peut-être plus une question de technique.
Voilà, d'enregistrement, c'était difficile. Ouais.
Je vais lire la question de Isabelle et de Sébastien, chacune à la suite, parce qu'elles se relient. Donc, Isabelle Cornac nous pose la question. La relation virtuelle n'induit pas-t-elle des freins relationnels entre art-thérapeute et le patient, vu le manque de présence physique? Et Sébastien dit finalement, pensez-vous que les ateliers à distance restent dans le cadre d'une situation, entre guillemets, situation dégradée, faute de mieux, ou bien constituent une modalité de séance à part entière? Donc, il y a la question du frein dans la relation et la question, est-ce que c'est vraiment une modalité ou c'est quelque chose que faute de mieux?
Alors là, je me permettrai de répondre d'abord très rapidement. Vous avez dans ma bibliographie plein de références parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le DU de cyberpsychologie avec Serge Tisseron et Frédéric Tordeau et c'est une des questions principales. Toutes les études ont montré que le transfert s'accélère parce qu'avec le numérique, il y a une désinhibition et ça, c'est le cas pour tout le monde. Hein. On a ce problème avec les réseaux sociaux. J'ai fait une conférence sur les fausses nouvelles, les fake news et tout ce qui s'ensuit. Le lien se fait, mais beaucoup plus rapidement que dans des séances normales. Et bon, moi, je travaille en individuel, alors là, ça va assez vite. Je vous dis, au bout de la deuxième séance, le transfert est mis en place. Et dans une séance de groupe, c'est un peu plus long.
Pour ma part, j'ai trouvé, parce que je n'avais pas l'habitude de travailler en visio, et j'ai trouvé que c'était un moindre mal, mais à force de travailler, à force d'avoir des expériences, à force de lire des témoignages comme ceux d'Emmanuel, hein, qui ont déjà pensé avant que le Covid n'arrive à ces dispositifs, je pense qu'il y a des choses intéressantes à travailler. Voilà, moi, je suis pas encore optimum pour le faire, ça c'est sûr. Par contre, le fait d'avoir tenu, je reprends l'histoire de mon plafond, mais le fait d'avoir tenu, d'avoir parlé à ce plafond pendant des semaines, ensuite, la qualité du travail en présence a fait comme ça avec ces jeunes. C'est-à-dire que oui, j'ai tenu, oui, j'étais une personne de confiance et on pouvait y aller, quoi.
Nous allons nous arrêter en lisant le commentaire de Béatrice. Intéressant dans le cas présenté par Jeanne de faire le lien entre la clinique du bébé et celle de l'adolescent, car l'adolescence est le deuxième temps du processus de séparation-individuation.